Bonjour Frédéric Huttmann au micro, j'ai le plaisir de vous retrouver pour un nouvel entretien. Aujourd'hui, j'ai le très très grand plaisir de recevoir Anastasia Kobaykina. Bonjour.
Bonjour.
Est-ce que j'ai bien prononcé ou ça va ?
Oui, parfait.
Donc je vous reçois à l'occasion de la parution d'un disque absolument magnifique autour de Venise. Alors, donc on se dit Venise, bien sûr, Vivaldi, des œuvres sublimes pour le violoncelle. Je crois qu'il y a une cinquantaine d'œuvres de Vivaldi pour le violoncelle.
Beaucoup, oui.
Et vous avez choisi. Alors, c'est très étonnant parce que ce disque s'ouvre sous les auspices de Monteverdi et non pas Vivaldi. Et vous avez choisi un Lamento d'Arianna qui est absolument merveilleux pour ouvrir ce disque. C'était votre choix ou alors vous avez choisi d'abord les œuvres et puis après l'ordre s'est imposé différemment?
Oui, même l'ordre était fait après l'enregistrement, oui, parce que c'est vraiment les derniers détails, comment faire ce chemin sonore. Et oui, c'est aussi deuxième œuvre sur Lamento d'Ariane qui est écrit par mon père spécialement pour ce disque.
Oui, qui termine le disque.
Qui termine des disques. Donc c'était l'idée de commencer par Monteverdi de l'époque baroque et finir par écho de ça en notre temps de mon père. Qui aussi dans ses pièces les variations sur Lamento de Dariane, il utilise aussi un arc de temps entre les sonorités des instruments. Je joue violoncelle avec les cordes de métal, donc représentant notre temps, et la deux viols de gamme qui deux voix de distante qui représentent l'époque baroque.
Ouais. Oui, c'est vrai. On va parler de votre père, Vladimir Kobaykine, magnifique compositeur qui est né à la fin des années 40, donc en ce qui s'appelait l'Union soviétique, et dont la musique a bercé votre enfance, en fait, Anastasia. Oui. Mais comment ça se passe quand on a un père compositeur? Il écrit à la table
Oui, il a composé beaucoup, chaque jour. Ouais, il a écrit
des opéras aussi, beaucoup.
Des opéras, beaucoup. Donc j'ai entendu lui chanter, chercher les mélodies en jouant au piano.
Mais lui, n'est pas violoncelliste.
Non, il est pianiste. Ouais. Oui, c'était un peu les... Que tu dis, oui, je peux dire que la musique faisait partie de la journée et je pensais que c'est tout à fait normal, tout le monde ça.
Je trouve ça très émouvant d'ailleurs, cette relation avec la musique de votre père. Vous avez donné la dernière fois qu'on a pu vous écouter à Paris, peut-être qu'il y a eu d'autres concerts, mais celui qui m'avait beaucoup marqué était en février 2023, vous étiez aux côtés de l'Orchestre National d'Île-de-France, vous avez joué une œuvre très rare, le concerto de Kabalevski. Donc vous avez donné ce magnifique concerto qui est une œuvre rare, c'était un choix de votre part ou c'était l'orchestre qui vous avait proposé cette œuvre?
Non, c'est l'orchestre qui m'a proposé.
Parce qu'on avait l'impression que ça faisait partie de votre... Vous aviez une telle joie à jouer cette œuvre, très difficile techniquement.
Oui, mais
on a l'impression que c'est une œuvre de votre répertoire quand on l'écoutait comme ça.
Bon, c'est ce qui est... je trouve très particulier et génial avec collaboration, je trouve, c'est bon, collaboration avec cet orchestre Île-de-France qu'on a joué plusieurs concerts, et pas que à Paris. Donc, on a eu la chance vraiment de trouver une interprétation on a partagé, on a cherché la sonorité de quelques points forts dans cette œuvre qui est vraiment formidable.
Oui, c'est dommage qu'on l'entende quasiment jamais. Moi, c'est la première fois que je l'écoutais au concert.
Oui, bon.
C'est étonnant parce qu'il n'y a pas 10 000 concertos pour violoncelle.
C'est vrai, oui. Honnêtement, oui.
Donc, en tout cas,
il faut rajouter comme aussi concerto de Weinberg.
Alors ce disque consacré à Venise, c'est un magnifique voyage, on le disait, il y a Vivaldi. Alors ce qui est très étonnant, c'est quand on écoute l'allegro du concerto en la mineure que vous interprétez, le premier mouvement, quand on met le disque, on n'a pas l'impression que c'est du Vivaldi d'emblée. Enfin, il y a la sonorité, c'est très frappant, la modernité.
Oui, bon, autant on joue avec musicien d'orchestre de bal en boyau, donc c'est On essaye de rapprocher des sonorités de l'époque baroque plus que possible. Mais c'était aussi ce que je trouve les répertoires baroques donnent telle liberté, parce qu'il y a bien sûr des sources nombreuses où on peut chercher les réponses sur questions, mais il y a aussi... pour chaque source, c'est la controverse. Source qui dit que, voilà, on peut, pour, de mon sens, j'étudiais musique baroque, violoncelle baroque à Francfort.
Avec qui
Avec fait. Christine van der Goltz, qui a fondé Freiburg Baroque Orchestra avec son frère. Et oui, c'est un monde qui m'inspire beaucoup et où je trouve beaucoup de liberté. Dans cette connexion directe avec la partition, où on lit, on imagine, on improvise aussi avec toutes les ornementations qu'on peut rajouter. Et ça donne ce sens de liberté qui n'est peut-être pas si présent pour moi dans les œuvres de...
Oui, très écrites, si vous jouez le concerto de Schumann.
Ou romantique, ouais, les répertoires romantiques qui... aussi très marqué par le grand interprète, on peut dire, oui, dans cette idéale interprétation qu'on a dans les oreilles par Rostropovitch ou d'autres grands violoncellistes.
Mais vous, quand vous étiez petite, justement, c'était qui les violoncellistes qui, pour vous, étaient des mythes ou vos héros d'enfants violoncellistes?
Bien sûr, Rostropovitch, ça restait toujours une grande étoile vers laquelle je regardais, mais aussi, bien sûr, Jacqueline Dupré, un caractère tellement intense et naturel, cette connexion directe de elle avec musique, de violoncelle, c'est... Elle a pas joué, elle a parlé, la violoncelle c'était pas du tout instrumental, c'est beaucoup beaucoup plus que ça.
Oui, d'ailleurs, vous parlez de Jacqueline Dupré, récemment vous avez donné le concerto d'Elgar, donc dont le nom est quand même très lié à Jacqueline Dupré. Quand vous travaillez comme ça une œuvre, vous écoutez des enregistrements comme ça un peu mythiques, ou alors justement vous voulez pas vous laisser influencer et c'est trop écrasant, après ça vous bloque dans votre envie de jouer une œuvre?
Bon, c'est on attend toujours des collègues, par exemple, non, ou à radio, ou quelques moments. Donc, bien sûr, c'est dans l'oreille. C'est presque impossible de rapprocher une œuvre comme dans les répertoires centrales d'instruments sans avoir écouté au moins une fois. Et donc, ça, c'est pour moi toujours une difficulté de retrouver est-ce que le mélodie, la phrase que je joue maintenant, les manières comme je joue ça, ça vient de moi ou c'était imposé par des interprétations que j'écoutais ou peut-être par mes professeurs avec qui j'ai appris, oui, parce que...
Donc des professeurs à la fois en Russie, puis en Allemagne, en France.
En France, oui, parce que, oui, les manières d'étudier, c'est toujours un peu de faire reflet de prof, oui, et c'est normal. Et donc pour moi... chaque fois, je recommence un concerto de d'Elgar ou de Dvorak quand je rejoue cet répertoire. Et j'essaie de trouver les intonations qui viennent qui sont plus de mon langue, oui, que de mon accent, on peut dire, que de quelqu'un d'autre. Oui.
Vous parlez de votre apprentissage. Vous avez quand même un lien, moi je trouve, assez fort avec la France au niveau du répertoire, au niveau de l'enseignement. Là, dans ce disque consacré à Venise, vous avez placé une pièce de Fauré absolument merveilleuse, donc une mélodie, Les Berceaux, ce qui n'est pas un choix, c'est un choix magnifique dans votre disque, mais ce n'est pas un choix évident non plus qui s'impose.
Oui, bon, Forêt a été à Venise et aussi le
Ah, mais je
texte.
conteste pas le choix, mais je dis que c'est magnifique comme choix,
Ah oui.
justement, mais d'avoir choisi ce compositeur français tellement important, ça montre aussi votre amour de cette musique française.
Oui, j'ai beaucoup joué cette pièce, au contraire des autres, sur les disques, parce que beaucoup de répertoires de ces disques, j'ai joué pour la première
Le
fois dans le
Kourtak, par
studio.
exemple. Kourtak, c'est une œuvre que vous jouez.
Kourtak, oui, vous savez, tous les idées de ces disques, oui, s'étissent dans un portrait musical de cette ville, un portrait personnel, on peut dire, aussi historique, avec Monteverdi, Vivaldi, Barbara Strozzi, partie d'un puzzle qui fait pour moi ce lieu, et je voulais pas que ça serait que baroque, parce que c'est pour moi c'est une ville qui est vivante aujourd'hui aussi avec Biennale, et c'est aussi pour moi c'est intéressant de voir cette diversité de le répertoire et chercher des échos et reflets dans différents temps, mais aussi comme par exemple avec Forêt, de prendre cette œuvre qui était écrite par voix et piano et jouer ça sur violoncelle baroque avec torpe. Oui, de dire que la musique, c'est bien sûr très lié à l'époque, mais on peut aussi l'écouter dehors de cette frame, comment dire, le cadre, dehors des cadres de temps.
Mais justement, dans votre précédent disque, vous jouiez la sonate de Debussy, donc il y a un lien fort aussi. C'était une magnifique interprétation de la sonate de Debussy. On a l'impression que c'est des œuvres qui vous sont particulièrement chères,
Oui,
Nastavia.
je joue beaucoup la sonate de Debussy.
Qui est une œuvre quand même assez âpre, enfin, qu'il a écrite pendant la Première Guerre mondiale. C'est une œuvre douloureuse, qui n'est pas le charme incarné. C'est une œuvre dure, cette sonate de Debussy.
Oui, mais je trouve que c'est pas que, par exemple, dans le concerto d'Olgar, qui était aussi écrit pendant la Première Guerre mondiale, où on vraiment sent cette
Oui, une douleur.
douleur qui marque la majeure partie de ce concerto. Je trouve que sonate Debussy, il a, on peut dire, cette écriture française qui a très varié dans les techniques, dans cette légèreté de langue, des mélodies qui sont un peu fragmentales dans cette sonate. C'est un peu un patchwork des idées qui disparaissent et paraître pour deux mesures et être disparu après. J'aime beaucoup parce que c'est aussi une manière de jouer cette pièce très improvisateur. Il a écrit beaucoup, beaucoup des détails dans la partition. C'est très précisé comment on joue avec quelle dynamique, avec quelle articulation. Mais quand même, cette œuvre donne une grande liberté et un moment d'improviser. C'est jamais pareil. Chaque fois quand je joue ça, avec le pianiste aussi différent, c'est comme la première fois.
Anastasia Kobekina, je vous ai entendu dans beaucoup de répertoires. Moi, je rêve de vous écouter interpréter les suites de Bach. Alors, c'est un cliché, mais bon, c'est quand même en tant que violoncelliste. C'est une œuvre que vous travaillez depuis toujours, ces suites, parce qu'on vous attend avec beaucoup d'impatience dans ce répertoire. Est-ce que pour le moment, vous êtes justement, vous attendez avant de le donner plus ou...
Oui, je joue de temps en temps le suite et je fais intégrale de suite aussi 3 ou 4 fois. Ouais. Je vais jouer cet été en Allemagne.
Oui, mais je parle. Alors nous, les Français, justement, on
Ah
n'a
oui,
pas la chance
allez, oui, j'ai
de vous
joué une
écouter.
fois 3 suites à festival
Au
Versoix.
Versant, ouais, auquel vous êtes très lié.
Oui, c'est une grande chance d'être soutenu par Pascal Escande, le fondateur de ce festival. Oui, c'est le site m'accompagne depuis je suis petite. J'ai commencé à apprendre ces danses, par exemple de bourrée, de danse bourrée de troisième suite quand j'étais tout petit. Aujourd'hui, je travaille souvent. Par exemple, je commence ma journée avec quelques gammes et après, je joue une suite, par exemple, pour moi, pour regarder comment je me sens avec cette œuvre qui reste toujours très difficile et c'est toujours un voyage intense, pas que pour le public, mais aussi pour moi pendant le concert. Oui, je suis pas prête à enregistrer ces suites parce que oui, c'est enregistrer, c'est-à-dire choisir interprétation. Et pour moi, dans les suites de Bach, c'est tellement difficile parce que les choix, le chemin qu'on peut prendre, le tempo, l'articulation, tout, il a telle variété, je peux pas encore choisir laquelle je veux faire pour un disque.
Mais votre travail sur la musique baroque, puisque vous parlez justement de la manière dont vous travaillez, dont vous avez étudié le violoncelle baroque, en quoi ça change votre regard sur la manière dont vous interprétez un répertoire plus contemporain ou romantique? Est-ce que ça a modifié votre manière de jouer
Absolument,
ce qu'on
oui.
appelle entre guillemets le grand répertoire?
Oui, il faut dire que l'effet de jouer sur Boyau, ça m'a pris beaucoup de jouer d'autres répertoires. Par exemple, je travaille de temps en temps aussi sur Boyau, comme sorte de Schumann, oui, qui était aussi écrit pour les cordes en Boyau. Et
Vous
ça,
parlez du concerto ou les œuvres
de
pour
romantique.
piano
Oui, ou
et
des œuvres
violoncelle de Schumann
ou Beethoven, sonate de
Oui.
Beethoven. Je travaille pour moi-même. C'est pas forcément que je joue un concert sur Boyau parce que je trouve que c'est mieux d'avoir aussi le piano d'époque pour avoir le son final mélangé des deux instruments. Mais pour moi, je travaille beaucoup sur Boyau parce que c'est tellement différent expérience de jouer, par exemple, les accords, oui. Ça prend d'autres timings, oui, c'est le temps. On a besoin plus pour faire vibrer les cordes, comment on touche les... comment d'être patiente aussi avec corps un boyau parce que c'est le son vient pas tout de suite comme avec un corps en métal. Et... il faut dire que le fait de jouer sur Boyau, oui, c'est suite de Bach, j'ai retrouvé au nouveau. Parce que, bien sûr, chaque professeur a son propre vision sur les grands suites de Bach. Après beaucoup d'années, je n'ai pas trouvé la mienne. Et c'est avec cordes en boyau, avec violoncelle baroque et l'archet baroque qui est beaucoup plus légère. Donc on peut jouer beaucoup plus élégant, plus vite, quelque chose plus articulé. Ça m'est ouais, ça m'est ouvrait cette porte, cette portail voyager à sentir l'époque baroque et ses suites de Bach.
Anastasia Kobekina, on n'a pas encore parlé de l'orchestre avec lequel vous jouez dans ce disque consacré à Venise, le Camera Orchestre de Bâle, passé sous la direction de Julia Schröder, qui est son premier violon en fait.
Oui.
Et l'orchestre est absolument splendide, enfin c'est magnifique. C'est un orchestre avec lequel vous aviez travaillé déjà ou...
Oui, maintenant on a beaucoup de projets, mais je peux dire qu'avant l'enregistrement, on a joué seulement une fois ensemble. C'était un concerto de Haydn. C'est un grand moment de vérité quand on se retrouve dans la salle d'enregistrement et C'est maintenant qu'il faut qu'on trouve cette interprétation, son tempo, les sensations de cette œuvre, et on n'a que ce temps limité. Donc, je suis très chanceuse que tous les musiciens apportaient vraiment son énergie et l'intensité pour cet enregistrement. On peut vraiment écouter, entendre ça dans les disques, comment, avec quel rapport, avec quelle joie il partage ses pièces avec moi. Et oui, je garde des souvenirs vraiment formidables de cette collaboration.
Je pense que aussi se sont sentis chanceux, Anastasia Kobekina, mais je ne vais pas vous faire rougir, mais on s'en fiche, comme c'est enregistré. Juste, vous parliez de Haydn, parce que bon, j'ai une passion pour Haydn, comme beaucoup. Ces concertos de Haydn, vous avez l'occasion de les jouer beaucoup. C'est aussi le cœur de votre répertoire en
Absolument,
concerto.
oui.
C'est une musique absolument sublime. Mais justement, qui
Oui.
est sur le fil aussi. Qui a l'air,
Baroque, oui.
oui, fil baroque,
C'est
classique.
classique, mais c'est vraiment
Oui,
entre
on a
le.
l'impression que c'est une musique tellement difficile à jouer, Haydn.
Oui, je travaille toujours. Avant les concerts, quelques jours avant, je commence déjà ces gammes de troisième mouvement. Oui, c'est aussi que ces pratiques de violoncelle baroque, Corboaio, ça m'a aussi apporté beaucoup pour ces concerts, pour articulation, les manières de jouer les accords aussi, les premiers accords de oud majeur qui ouvrent le concerto. Comment de jouer ça, avec quelle oui, énergie, quelle sensation de ton. Ça, c'est aussi les premières notes. Tellement important, et ça, ce que j'ai appris avec corde à moyeu.
Alors, on n'a pas parlé tellement des œuvres plus contemporaines dans ce disque consacré à Venise. On a parlé de l'œuvre de votre père en résonance avec l'œuvre de Monteverdi qui ouvre le disque. Il y a une très belle œuvre aussi de Caroline Shaw,
Oui,
absolument
j'adore.
merveilleuse en
Elle est
pizzicati.
incroyable, vraiment.
C'est une compositrice
Américaine,
que
oui.
vous connaissez bien personnellement ou...
Non, pas du tout. Je viens de les rencontrer il y a quelques jours. Elle a telle diversité. Elle est violoniste de sa éducation, mais aussi elle chante, elle compose, faire de sortes de compositions avec musique électronique, avec percussion. Oui, cet monde imaginaire qui est présent dans ses œuvres, c'est toujours c'est absolument fascinant. Et cette pièce, cette petite pièce pour violoncelle,
Oui, mais elle est magnifique cette pièce.
et oui, c'est pour violoncelle et viol. Non,
Oui, tout à fait.
comment dire, braccio. Alto, alto, c'est alto, ouais. Pour violoncelle et alto, c'est quelque chose vraiment. J'adore de jouer cette pièce.
Le 27 juin, vous serez à Auvers-sur-Oise, justement. Pour interpréter une partie du programme de ce disque, mais je pense une partie essentiellement baroque, parce que quand vous êtes là au disque, vous faites le grand écart entre les siècles et les répertoires, mais au concert, ça doit être excessivement compliqué de passer d'un siècle à l'autre ou d'un répertoire à l'autre, comme ça.
Oui et non, parce que je pense que les contrastes, c'est ça ce qui permet à le public de garder concentration, d'être engagé. Par exemple, l'œuvre de Caroline Shaw qui sur les disques, on va jouer aussi comme le pièce en duo avec Théorbe des forêts, par exemple, ou un duo avec deuxième violoncelle de Silvestrov. J'aime beaucoup ce changement des grands orchestres à un duo petit, intime. Et peut-être on va aussi ajouter un programme live l'œuvre de Paganini et Stravinsky. suite italienne qu'il a écrit basée sur mélodie italienne. Donc, ça va être
italienne qu'on entend au violon aussi.
Au violon aussi.
Violon et
piano,
violon,
oui. Il a un arrangement
oui.
qui je viens de découvrir et ça va être aussi partie de notre Venice Life.
Mais ça doit être très très difficile aussi parce que c'est une œuvre beaucoup dans les aigus de votre instrument, non, la suite de Stravinsky.
Oui, mais il faut avoir un challenge.
On a l'impression que vous vous posez comme ça des challenges. Alors, il y a une œuvre aussi, il y a un compositeur lié bien sûr à Fellini, vous avez choisi d'interpréter. Alors, c'est une très belle transcription aussi de thème du Casanova de Fellini,
en
donc
chanson,
Casanova
oui.
Dans ce Venise imaginaire recréé par Fellini pour son Casanova. Et donc, vous avez choisi aussi de mettre cette œuvre de Nino Rota qui est aussi magnifiquement arrangée et qui s'insère bien dans ce disque aussi.
Oui, c'est un petit détail dans le portrait de Venise, comme par exemple une pièce de Courtac, oui, qui oui. dure seulement 50 secondes. Et c'est aussi un... comment apparence de devant, une image qui est là pour quelques secondes, quelques instants.
Mais ce qui est étonnant dans Venise, ce que vous dites, votre amour de cette ville dans le texte qui accompagne ce disque, et pourquoi vous avez choisi Venise, c'est incroyable parce que c'est une ville à la fois un mélange de clichés qu'on a tous dans la tête et tous les films hollywoodiens ou autres. Et quand on arrive à Venise, on est à la fois entre ces clichés et un amour éperdu pour cette ville. Enfin, on est à la fois pris dans l'image qu'on a de Venise et en même temps dans la beauté de cette ville. Enfin, c'est, votre amour transparaît à chaque note, quoi.
Oui, il faut dire chaque fois quand je reviens à Venise, je suis fascinée par le caractère de ces villes. Oui, c'est pas, bien sûr par beauté, mais on cherche souvent comment on se sent dans un lieu. Et c'est ça ce qui est précieux pour moi. Je me sens tellement créatif, esprit ouvert dans cet endroit. Et j'essayais de recréer ces moments avec la musique parce que la musique, cette force de nous transporter dans les souvenirs profonds. Et les émotions qu'ils ont vécues.
Excusez-moi de vous cueillir à froid, mais il y a une autre ville dont vous auriez pu faire un portrait comme ça, musical, dont vous êtes amoureuse aussi, et pour laquelle il y a des œuvres que vous adorez, que vous aimeriez. Ou alors la question est trop question piège, surprise.
Non, il y a d'autres. Par exemple, en Russie, il y a peut-être une ville sœur de Venise, Saint-Pétersbourg, que j'adore, et qui aussi m'a inspirée beaucoup. Et malheureusement, je n'ai pas pu revenir pour quelques années maintenant, mais peut-être oui. Mais pour l'instant, je n'ai pas encore fait le plan pour d'autres disques. On va voir, peut-être un jour.
On a parlé de votre père compositeur, Vladimir Kobekin. Vous avez toujours vécu dans la musique, c'est-à-dire que pour vous, quand vous étiez petite, la musique, c'était normal. Pour les familles où il n'y avait pas de musique, c'était des gens bizarres ou...
Oui, je pensais que chaque famille a un piano et la musique pour danser, pour chanter. Ouais, c'est...
Votre mère est musicienne aussi.
Oui, elle est prof de piano pour les enfants. Ouais.
Ah oui, donc vous avez toujours vécu. Et le violoncelle, c'était un choix de vos parents au départ ou c'est vous qui êtes tombée amoureuse de ces instruments
C'est tellement difficile à dire parce que j'ai commencé le violoncelle quand j'ai eu à peu près 4 ans. Donc, j'ai commencé à 3 ans avec piano et c'est hier que je viens de découvrir l'enregistrement que mes parents m'ont envoyé où je suis à 3 ans et je suis en train de jouer quelques petits morceaux sur piano, sur violoncelle. Au début, j'ai juste joué les pizzicato sur violoncelle et chanté. Oui, c'était une manière de jeu. C'était pas vraiment travail. Ouais, c'est devenu un peu plus tard que j'ai compris que pour être bien sur scène, pour me sentir bien, il faut travailler en plus. Sinon, c'était un peu comme si je peux jouer un morceau dès le début à la fin sans faire quelques fautes, mais j'étais libre.
En tout cas, il y a ce disque absolument magnifique consacré à Venise qui vient de paraître pour Sony Music. Vous êtes aux côtés de Kammer Orchestra de Bâle, dirigé par Julia Schröder. Un programme magnifique. On n'a pas parlé de tout, mais bon, il faut écouter tout cela. C'est absolument merveilleux. Et puis, il y a bien sûr ce concert le 27 juin au Auvers-sur-Oise. Et puis, on attend avec beaucoup d'impatience de vous écouter dans d'autres répertoires et dans d'autres concerts. Anastasia Kobekina, il me reste à vous remercier infiniment d'avoir été mon invitée.
Merci beaucoup.